Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire.
Enerko Amag, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour Hector. C'est avec grand plaisir que je reçois en studio ce matin Hector Giraud.
Bonjour Andrea.
Salarié d'Enercoa, qui s'occupe plus particulièrement des dossiers concernant l'installation de centrales photovoltaïques sur les toits particuliers. Mmh. Et justement, ce matin, nous allons essayer de donner un maximum d'informations pour tout ce qui concerne justement le dossier d'une installation
de RGE voilà, pour les particuliers ouais, qui souhaitent que ça, installer.
Que ce soit 3 kilos ou plus sur le toit de sa propre maison ou du garage ou de la pontille ou que je sais-je encore. Et donc voir quelles sont toutes les étapes un peu obligatoires à franchir avant de pouvoir accéder à la signature d'un devis par exemple.
Voilà,
Par quoi on peut commencer ?
On peut dire aussi qu'on peut l'installer ailleurs que sur sa toiture, mais que ça a pas les mêmes conséquences. C'est-à-dire que nous, en fait, on fait des installations qui sont RGE, donc qui sont faites par des prestataires qualifiés, qui vont permettre de revendre à EDF le surplus, donc qui aide à une pérennité financière de l'installation.
D'accord. RGE, c'est-à-dire c'est une condition au préalable à remplir par l'installateur pour que EDF ou Enedis, peu importe, accepte
C'est ça.
D'accord.
C'est ça. Il est formé, je ne sais plus, règlement Grenelle Environnement. Et en fait, avec ça, ça va permettre à EDF de reconnaître l'installateur qui va faire les démarches et qui va permettre de revendre le surplus ADF avec un tarif d'achat qui est négocié tous les trimestres, qui change tous les trimestres.
Alors quand tu parles de surplus, c'est donc la production de la centrale en question, mais avant de pouvoir poser les panneaux là où on a décidé de le faire, quelles sont les étapes, pour ainsi dire, obligatoires à franchir avant de pouvoir signer le devis, quoi ?
Oui, ben, en fait, quand on souhaite installer une centrale photovoltaïque sur son bâtiment, la première question à se poser, c'est de savoir si on a fait tout ce qui était à faire en amont. Donc à Enercoa, on encourage aussi à regarder si au niveau des consommations, qu'elles soient électriques ou autres dans le bâtiment, on a fait tout pour les réduire au maximum. Parce qu'en fait, il vaut mieux dimensionner une centrale à ses besoins. Et donc, si on peut limiter ses besoins, c'est déjà beaucoup de choses gagnées dans la démarche et qui permettrait d'éviter un investissement trop important par rapport à ses besoins actuels ou futurs.
Par exemple, éviter de poser une centrale qui fait 9 kW crête, alors que 6, c'est largement suffisant pour la consommation qu'on a. C'est ça que ça veut dire ?
Oui, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il faut s'interroger sur ses consommations électriques, sur les consommations du bâtiment, est-ce qu'on a fait les bonnes isolations, etc. Et si on a fait tout ça, ensuite, quelque part, le dernier élément à amener dans un bâtiment, ça serait ça. Ça serait la production électrique, autoconsommer sa production électrique et éventuellement revendre le surplus.
Donc,
ce qu'on préconise.
Très bien, très bien. Alors, est-ce que, par exemple, tous les toits sont naturellement disposés à accueillir une centrale ?
Alors, ça, c'est non. Tous les toits ne sont pas disponibles à ça pour plusieurs raisons. Soit parce que l'environnement dans lequel ils se trouvent n'est pas propice, donc on va avoir beaucoup d'ombrage, beaucoup de exposé nord ou alors dans ce qui est la disponibilité de la toiture, trop de chiens assis, de fenêtres de toit, de cheminées ou de choses comme ça qui limitent en fait la possibilité de poser les panneaux. Donc ça, il y a un premier environnement à voir et aussi la couverture, est-ce qu'elle est encore suffisamment en état pour pouvoir positionner dessus les panneaux. Est-ce que on n'a pas des, voilà, il y a par exemple les loses qui peuvent être certaines choses qui peuvent entraîner des surcoûts sur les centrales, ou alors des tuiles vraiment qui sont arrivées en limite et qui font qu'on devra changer une partie de la toiture avant d'intervenir. Donc parfois j'ai eu par exemple un sociétaire qui est venu et qui, voyant que ça, quand on marchait sur les tuiles, ça allait casser, va attendre de faire un changement de toiture, de couverture, pour poser une centrale plus tard. Voilà.
Oui, donc solidité, orientation, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour déterminer si la faisabilité est, pour ainsi dire, rentable. Ou pas, quoi.
Facilite, en fait, facilite la pose pour la centrale, oui, bien sûr.
D'accord. Alors, imaginons que j'ai un toit qui remplit toutes les conditions. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire obligatoirement tout de suite après ?
Eh bien, disons que ce qu'on fait à Enercoa, moi, ce que je propose, c'est de regarder un petit peu les consommations, comment elles se font dans l'année pour déterminer la puissance adéquate de la centrale. Donc, c'est là qu'on va intervenir sur dresser un petit peu le profil de consommateur qu'on a, le profil des consommations à la fois au niveau des saisons, à la fois au niveau des journées, et de voir comment on peut dimensionner la centrale pour qu'elle réponde au mieux aux besoins, c'est-à-dire qu'on auto-consomme le plus possible de sa production solaire. Donc ça, c'est grossièrement ce travail qui va être fait avec le sociétaire quand on fait la première pré-étude, quoi, disons.
D'accord, et tout ça, c'est entre le sociétaire et toi, par exemple, en tant que salarié d'Enercoa qui est plus, consacré beaucoup de ton temps salarié à l'étude et la faisabilité de tous les projets avant de faire appel à un prestataire.
Voilà, souvent le prestataire le fait de façon un petit peu simpliste, on va dire. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie d'aller un petit peu plus loin dans la démarche et vraiment de faire comprendre aux coopérateurs les objectifs de la démarche, pour qu'on colle au mieux à la réalité et qu'on détermine un dimensionnement de centrale qui soit le plus juste possible.
On peut parler presque d'un travail un tout petit peu plus consensueux.
J'aime bien
ce mot-là.
Ouais, d'accord, si tu veux, mais en fait, on essaie juste. J'accompagne un petit peu plus, disons, le sociétaire, le futur propriétaire de centrale. Peut-être, je prends un petit peu plus de temps que quelqu'un qui le fait,
d'accord.
Dans une entreprise.
Oui, d'autant plus que nous, en tant que tiers de confiance, nous n'avons pas les panneaux à vendre, nous vendons une sorte de savoir-faire qu'on a accumulé grâce aux expériences d'autres sociétaires qui ont déjà, eux, procédé à l'installation de centrales sur leur toit. Le retour d'expérience est important pour la démarche de préparation d'un dossier ?
Bah, disons que moi, au fur et à mesure des accompagnements que j'ai faits, c'est vrai que ça m'a permis d'être un petit peu plus pointu sur certains sujets de consommation, d'installation, de choix. Donc moi, ça me permet d'accompagner un petit peu mieux les sociétaires de la coopérative dans leur projet, ouais, bien sûr.
Très bien. Bon, alors, nous sommes donc à l'étape, nous avons déterminé, grosso modo, on va dire, qu'une centrale qui produit 6 kilowatts crête est suffisante. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Eh bien, donc, on va se mettre en lien avec le prestataire qui va aller vérifier sur place tous les éléments que moi j'aurais pris à distance la plupart du temps. Mmh. Et donc, à ce moment-là, si l'exactitude de mon travail est correct. Bon, la plupart du temps, si j'ai des questions, je les lui pose avant. Comme ça, on est pratiquement sûr de faire un bon coup à chaque fois, enfin une commande sans problème. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a la signature du devis qui se fait directement chez le coopérateur. Voilà. Après qu'il ait posé les dernières questions, si nécessaire, directement au prestataire.
Et donc là, le devis, c'est une relation directe entre le sociétaire et le prestataire. Oui. Ce qui veut dire que pour toi, le travail, en tout cas à ce stade-là, est terminé.
Non, il ne sera pas complètement terminé parce que je vais continuer à accompagner en fait le coopérateur sur quelques démarches administratives que moi je peux que je peux prendre à mon compte comme la déclaration préalable celle de l'urbanisme.
Et c'est clair.
Ensuite, ce que je fais aussi, c'est que je regroupe absolument tous les documents administratifs nécessaires pour que le prestataire puisse faire les démarches qui lui incomberont, c'est-à-dire la demande de raccordement auprès d'Enedis. Donc il lui faut certains documents et moi je suis là pour mettre de l'huile dans les rouages et faire en sorte que chacun perde pas de temps, c'est-à-dire je relance le sociétaire si c'est nécessaire, si j'ai pas les bons documents, et comme ça le prestataire il a tout le package et il peut faire son taf tranquille.
Et donc tout le côté, pour ainsi dire, administratif, notamment auprès de Enedis, etc., pour le raccordement, etc., ça doit être fait de pair, en même temps que la préparation de la part du prestataire du matériel nécessaire pour l'installation, ou ça peut être fait à n'importe quel moment. Enfin, si les temps sont longs, il peut être mieux de prévoir un tout petit peu à l'avance, non?
Bah, disons que quand le devis est signé, donc on connaît le matériel qui sera mis en œuvre. Donc au niveau de la demande de raccordement, elle peut arriver assez rapidement, sauf qu'on a le délai de la déclaration préalable en mairie. On doit recevoir la non-opposition pour pouvoir faire la déclaration, la demande de raccordement auprès d'Enedis. Donc il est nécessaire d'avoir. Donc on a des étapes un peu obligatoire sur laquelle, par exemple, dans les cas où on a l'ABF, on peut avoir des délais un petit peu supplémentaires. Donc, grossièrement, on a un mois pour recevoir sa déclaration préalable. Puis, on fait la demande de raccordement. Donc, il faut compter 3 mois, quelque part, pour, si tout fonctionne bien, pour avoir ces deux démarches qui sont pratiquement finalisées. Ce qui se passe aussi, c'est qu'en parallèle, nous, on arrive à avoir avec le prestataire une installation qui arrive dans en règle générale, dans ce que j'ai vu, entre 4 et 6 mois. Donc, ce qui est relativement correct comme délai. Et ensuite, les dernières démarches administratives arrivent avec les mises en service. Donc, la mise en service avec le consuel, donc qui vérifie si l'électricité, tout est conforme, voilà, en termes d'installation au niveau de l'électricité. Voilà, cette visite se fait par le consuel. Et ensuite, il y a une demande donc de mise en service par Enedis qui, validé par le consuel, déclare la possibilité de revendre les électrons et donne le top départ de la revente des électrons en fait pour EDFOA. Et ensuite, EDFOA arrive aussi.
OA, c'est obligation d'achat.
Obligation d'achat, c'est ça. Qui va lui aussi arriver. Donc le propriétaire, je peux aussi, le propriétaire de la centrale, je peux l'accompagner aussi dans cette démarche si c'est nécessaire pour qu'il aille vraiment valider sa. La plateforme de producteur, puisqu'il va devenir producteur d'électricité, et pouvoir mettre en place le contrat avec EDFOA qui va durer une vingtaine d'années, qui va durer 20 ans. Voilà.
Thank you.
voilà, Enercoa Mag de retour avec mon invité du jour, Hector, qui va donc avec moi maintenant aborder un sujet un tout peu plus, comment dire, fâcheux. Quand il s'agit par exemple des personnes, je crois que ça nous est déjà arrivé, notamment à toi, d'avoir affaire avec des particuliers qui avaient fait installer une centrale sur leur toit grâce au ce qu'on pourrait appeler démarchage téléphonique, et qu'en fait ils se sont trouvés face à des situations un peu compliquées, avec des difficultés de trouver la solution. C'est vrai ou je dis n'importe quoi ?
Non, c'est encore exact. Malheureusement, malgré les exemples qu'on a de défaillance en fait des installateurs, de certains installateurs, en fait qui souvent sont éloignés. Hein, donc moi, si j'avais quelque chose d'important à dire, c'est de s'occuper avec ceux qui sont sur place autour de votre territoire, voilà, en proximité, parce que ceux-là seront les moins défaillants. On a vu en effet des prix très importants par rapport à avec des installations qui étaient 30, 50, 100% plus chères que ce qui se déroulait encore dernièrement avec une centrale en 3 kilos qui coûtait 30 000 euros. Non, mais c'est un peu de la folie. Et donc voilà, un démarchage avec quelqu'un qui venait de Paris, semble-t-il, ou voilà, un installateur en tout cas qui n'était pas du tout de la région et qui a profité de la crédulité des gens pour ça. C'est arrivé quelques fois aussi, des gens qui nous ont appelés en disant qu'ils avaient signé, etc. Donc on leur dit qu'ils ont aussi la possibilité de se rétracter.
De se rétracter, bien
voilà.
Sûr.
Et parfois, certains qui se sont engagés, puis c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà. Donc soyez attentifs à surtout d'avoir des installateurs. Si vous avez un démarchage téléphonique, prenez quelqu'un qui soit du cru. Vraiment d'à côté de chez vous et puis demander éventuellement de voir les installations qu'il a réalisées et d'aller chez d'autres clients et d'échanger avec ses clients pour parler de la façon dont ça s'est déroulé pour eux. C'est la meilleure des choses à faire.
Mais c'est que Enercoa propose quasiment par le retour d'expérience dont on parlait tout à l'heure, à savoir que une toute ou partie de ce parcours-là, grâce au fait que nous avons des sociétaires qui ont déjà procéder à l'installation de centrales sur leur toit, ça nous permet effectivement d'avoir une meilleure visibilité entre guillemets entre la dimension, la production minimale nécessaire, la qualité et le suivi, ce qu'on pourrait appeler le service après-vente.
Oui, disons que on n'a aucun intérêt à faire que ça se passe mal. Donc, à la fois le prestataire, à la fois nous, à la fois le sociétaire, tout le monde va, je dirais, allez, on va le dire, main dans la main vers un objectif d'avoir la meilleure proposition, la meilleure installation, etc. On a pu rencontrer quelques petites incompréhensions avec quelques sociétaires, et en fait à chaque fois on s'est mis autour de la table, on a discuté et on a obtenu une solution qui correspond à tout le monde. Donc voilà, l'idée aussi d'Enercoa en étant cette interface avec le prestataire, c'est de garantir que le sociétaire ne se retrouve pas tout seul face à son prestataire, etc. Et donc c'est plutôt bénéfique pour tout le monde.
D'accord. Et alors, juste pour terminer, une question relative à la, comment on pourrait dire, le rapport qualité-prix aujourd'hui des panneaux que nos prestataires proposent par rapport à ce qu'on peut trouver normalement sur le marché. Est-ce que ça s'améliore ou ça stagne ?
Allez. Les prix ont eu tendance à baisser dernièrement, puisque les panneaux et les produits ont baissé pas mal. Par contre, la main d'œuvre ne baisse pas, elle. Donc souvent, on a des disparités de baisse de prix. Ensuite, je sais que par rapport à la baisse de prix, l'essentiel, c'est aussi la différence entre le fait de faire le choix d'un onduleur central ou de micro-onduleur, ce qui est un peu une technologie différente. nous en tout cas à Enercoa, on a fait le choix d'onduleurs centraux qui gèrent en fait la totalité de l'énergie de tous les panneaux. Et donc cet onduleur central se retrouve souvent à proximité du tableau électrique. Il permet une meilleure surveillance, on va dire, un meilleur entretien de ça. Voilà. Par contre, il y a des choix à faire, micro-onduleurs, onduleurs centraux. Centrale, j'ai pas de choix complètement définitif sur ça. Ça dépend de chaque cas. Mais en tout cas, à Enercoa, on a fait le choix des onduleurs centraux.
Voilà. Très bien. Bah, je pense que pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Si on a des choses nouvelles à apporter dans le futur, bien évidemment, je négligerai pas l'opportunité de vous réinviter à nouveau, cher ami.
D'accord, avec plaisir.
Et portez-vous bien. Bonne journée, tout le monde.
Portez-vous bien, oui.
Au revoir.
Au revoir.
CFM. CFM. CFM Radio. CFM Villefranche.